podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sophie Cholec, je suis journaliste et je vous propose le temps d'un trajet en métro ou en bus de tout comprendre sur un sujet de recherche. Bienvenue sur On Air, le podcast de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Aujourd'hui, on prend le large et on sort des sentiers battus pour goûter au plaisir d'une virée authentique, nature, loin des foules. C'est la promesse en tout cas du nouveau tourisme durable qui a fait son apparition et auquel notre invité consacre justement ses recherches. Bonjour Jacinthe Bessières.
Bonjour.
Vous êtes professeure en sociologie à l'ISTIA, qui est l'Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation à l'Université Toulouse Jean Jaurès, chercheuse au CERTOP, le centre d'études et de recherche travail, organisation, pouvoir de l'UT2J. Et vos recherches croisent justement sociologie du tourisme, de l'alimentation et du développement. Et elles ont donné lieu à plusieurs publications à l'échelle nationale et internationale. Et je précise que vous travaillez actuellement sur le programme de recherche Touralim, dont le second volet s'intéresse à l'agritourisme. Alors l'agritourisme, on va en parler. Il fait partie de cette tendance plus globale, Jacinthe Bessières, à faire du tourisme, on va dire, autrement. Mais finalement, autrement que quoi et comment? C'est quoi le tourisme durable?
Vaste question que vous me posez là, évidemment. Donc ce tourisme durable aujourd'hui, il est employé, utilisé, diffusé, vulgarisé. Et on se rend bien compte aujourd'hui qu'il faut spécifier ce tourisme dit durable. Le spécifier par d'autres adjectifs, certes, mais surtout bien le définir. Et je dirais que, puisque vous me lancez là-dessus, aujourd'hui, ce dit tourisme un petit peu différent ou vécu autrement, eh bien, c'est un tourisme qui s'écarte, on va dire, du tourisme dit plus de masse ou de certaines pratiques touristiques plus conventionnelles, massifiées, comme on a eu l'habitude plutôt de les connaître, de les reconnaître depuis le développement vraiment des vacances et du tourisme des années 50-60. Donc aujourd'hui, ce tourisme dit durable intègre de multiples dimensions qui sont plutôt celles de l'immersion, celles de l'expérience, celles de la mise en contact avec des populations locales, la dimension également de valorisation culturelle, ces dimensions aussi de mobilité, je dirais, raccourcie, de proximité, d'une consommation, on va dire, peut-être plus raisonnée, partagée. Alors voilà, les qualificatifs, les définitions sont très nombreuses, mais elles se rassemblent autour de quelque chose qui se différencierait ou qui correspondrait à ce qu'on pourrait appeler une transition.
Et on sait à peu près quand c'est apparu ?
En termes temporels, c'est quelque chose qui s'est de plus en plus renforcé, qui s'est là aussi défini et qualifié et approprié aussi depuis la fin des années 70, hein, 80. Donc c'est quelque chose qui est dans toutes les têtes, mais de là à être réellement pratiqué unanimement, collectivement, on en est un petit peu encore loin.
Et du coup, vous l'avez presque évoqué tout à l'heure, il y a plein de déclinaisons terminologiques autour du tourisme durable. Je pense au slow tourisme, au tourisme éthique, etc. Cette terminologie, c'est le marketing qui a pris le dessus ou elle a vraiment un sens?
Elle peut avoir un sens dans la plupart des cas, hein, quand même, hein, parce que effectivement, vous l'avez dit, écotourisme, tourisme éthique et équitable, tourisme éthique, tourisme responsable, et j'en passe, hein, slow tourisme, vous l'avez dit. Ce sont des dénominations, on va dire, qui se rassemblent quand même autour d'une vision alternative ou transitionnelle ou plutôt un peu résiliente, hein, du tourisme et d'une manière d'inventer de nouvelles voies. Mais effectivement, ben marketing aussi aidant, hein, ce sont quelques termes qui sont aussi là aussi propulsés, on va dire, dans la sphère de la médiatisation et de la vulgarisation. Donc forcément, le marketing a joué parfois en faveur comme en défaveur, hein, de ces formes de tourisme.
Et s'il y a marketing, ça veut dire qu'il y a de la demande.
Bien sûr, c'est tout
ça.
À fait.
Ça s'est beaucoup développé. Alors, loin des foules, vous l'avez dit, plus de nature aussi, c'est ça finalement le tourisme durable, retour au vrai. On arrive tout doucement à l'agritourisme, qui est précisément votre domaine, enfin en tous les cas actuel de recherche, et qui lui, pour le coup, existe déjà depuis un petit moment.
Oui, alors l'agritourisme, effectivement, c'est une forme de tourisme sur les exploitations agricoles. Donc c'est c'est une voie de diversification de l'agriculture qui existe depuis très longtemps. Hein. On a des départements précurseurs comme la Drôme ou comme en Ariège, par exemple. On a des modèles, on va dire, agritouristiques au sens large, extrêmement anciens et qui font date. Mais aujourd'hui, cet agritourisme-là retrouve un certain nombre de... Alors, je ne dirais pas ses lettres de noblesse, mais se retrouve revivifié ou se retrouve parfois mis sous les projecteurs au regard de cet engouement pour des pratiques touristiques plus durables, plus proches, plus centrées sur les ressources et les territoires. Donc, moi, je travaille sur l'agritourisme, mais on peut dire que c'est plutôt... On travaille sur... on va dire la diversification agricole au regard de la demande sociale, au regard d'une demande touristique et de loisirs qui aujourd'hui semble attirée malgré tout par des espaces à faible densité.
L'agritourisme qui est porté d'ailleurs par des labels, c'est dire si ça se développe aujourd'hui.
Oui, alors on a des labels, on a des divers types de labels, bienvenue à la ferme, on a des labels accueil paysan, on a effectivement des labels qui structurent d'une certaine façon ces modes d'action et ces initiatives. Mais il y a aussi bon nombre de formes agritouristiques qui ne dépendent pas de labels et qui refusent, je dirais, là aussi d'être labellisées comme telles. Donc c'est effectivement un secteur, si on peut appeler cela ainsi, en voie de structuration, peut-être de professionnalisation, mais malgré tout, c'est quand même avant tout, je dirais, un état d'esprit, une manière autrement que de voir et de donner à voir son exploitation agricole.
Et s'il y a des touristes qui apprécient justement l'agritourisme, c'est aussi parce que la France est un pays quand même de gastronomie, d'alimentation, bien manger, c'est très important pour nous autres Français. Est-ce que ça, pour le coup, ça fait partie, c'est le pivot central de l'agritourisme ?
Alors j'ai envie de dire oui, parce que au final, quand on regarde un petit peu, ces agriculteurs et ces agricultrices aujourd'hui qui peuplent, entre guillemets, nos espaces et nos ruralités, bien ce sont bien sûr ceux et celles qui produisent aussi des matières premières qui, même si elles sont transformées, culinarisées, etc., arrivent dans nos assiettes. Donc l'alimentation est au cœur de ces formes de tourisme dit proche et au contact, on va dire, de ces ressources agricoles. Et nous, d'ailleurs, dans notre programme de recherche sur lequel on travaille, on interroge l'alimentation comme justement un levier de développement agritouristique et une alimentation qui serait une passerelle, une voie de dialogue entre les populations dites touristiques, urbaines, et ces populations locales, rurales, agricoles. Donc cette alimentation, pour nous, effectivement, elle s'érige un petit peu comme un pilier, comme une voie d'entrée, de demande, finalement, comme un objet de mise en dialogue, d'interrelation entre une sphère urbaine, une sphère rurale, agricole, et souvent ces deux sphères qui ne se connaissent pas ou peu, finalement. Donc ce serait grâce à cette alimentation, à cet alimentaire-là, renouant avec, je dirais, le territoire de production, que les mondes s'articuleraient ou dans tous les cas s'ouvreraient l'un à l'autre.
Justement, dans votre travail de recherche, vous avez fait des études qu'on dit qualitatives, c'est-à-dire vous êtes allé sur le terrain, interroger des agriculteurs et des agricultrices, notamment sur leur motivation, leur parcours et le sens aussi qu'ils donnent à cette activité d'agritourisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Effectivement, on a une partie de nos recherches, alors je dis nos parce que je ne suis pas la seule à travailler dans ce programme-là. Je suis avec un collègue également. Et donc, effectivement, notre objectif était aussi de comprendre le sens que donnaient ces agriculteurs, ces agricultrices à leur action d'ouverture. Finalement, pourquoi on ouvre son exploitation agricole à une demande extérieure, a priori la plupart du temps citadine, urbaine, et on essayait de comprendre les trajectoires, les récits de vie, les biographies d'individus qui se retrouvent là en initiant, en ouvrant la voie à quelque chose qui, je le répète, est quand même transitionnel, qui donne, je dirais, une nouvelle vision de l'agriculture. Alors les motivations, elles sont multiples, mais bon, il y a une motivation économique qui est certaine, qui est tout à fait notable, qui est celle de complémenter un revenu agricole qui est souvent très insuffisant. Donc le tourisme, l'ouverture de son exploitation à l'accueil, c'est finalement une autre manière de compléter un revenu, d'intégrer une valeur ajoutée sur son exploitation. Réellement financière et rémunératrice hein, pour beaucoup. Donc il y a une motivation économique, c'est évident. Mais il y a une autre motivation, celle qui nous est parue assez centrale également, c'est une motivation très sociale finalement.
Humaine.
Humaine. Mmh. Où l'idée dans ces initiatives-là, c'est aussi de s'ouvrir, de se sociabiliser, et j'ai envie de dire de créer des liens avec finalement ces fameuses populations-là qui semblent assez... éloigné d'un vécu quotidien. Et donc, ces motivations, c'est déterminant de vouloir relier deux mondes, mais aussi de vouloir rentrer en dialogue avec des populations, est apparu réellement central dans nos enquêtes. Et puis, ça a été aussi ces formes d'ouverture agricole au monde urbain, c'est aussi une manière de visibiliser parfois le rôle du conjoint d'exploitation sur cette même exploitation, c'est-à-dire le rôle des femmes en particulier qui ont souvent pris en charge cette diversification en cuisinant, en accueillant, en montrant finalement ce qui était un petit peu dans les coulisses hein,
La pédagogie, justement.
La pédagogie, ouais. La transmission, et puis l'alimentaire appartenant aussi au monde des femmes, très souvent, et au mode de la transmission générationnelle, hein, savoir-faire hérité de mère en fille, de grand-mère en petite fille. Et là, ces ouvertures d'exploitation agricole sont aussi l'occasion de donner une nouvelle place à ces conjointes d'exploitation qui retrouvent là une manière de légitimer, de visibiliser un rôle souvent très, très social et très humain, hein, je dirais, et très relationnel dans cette ouverture.
Et alors, en face, côté touriste, justement, est-ce que vous avez eu l'occasion soit de les interroger, soit de les sonder un peu sur ce qu'eux aussi recherchent en venant sur ce type de pratique touristique?
Alors, on a aussi monté une enquête auprès d'Agri Touristes. Ouais. C'était dans l'été, courant été 2021. On a eu un petit peu de mal à cerner ces populations touristiques. On était dans une période après Covid ou avec quelques difficultés d'accès à ces publics. Ce que l'on a quand même noté, c'est finalement qu'il y avait un réel engouement, au moins dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on sent bien que les représentations, les images aujourd'hui qui gravitent autour du rural, autour de l'agriculture, autour du manger mieux, autour du bien manger, du patrimoine alimentaire, finalement revêtent, ou je dirais recouvrent quelque chose d'extrêmement positif. Donc on est dans la construction d'images collectives, dans la construction d'un imaginaire très positivé autour des ruralités aujourd'hui, au moins du point de vue des touristes que nous avons interrogés, et qui vont se matérialiser ou qui vont plutôt se concrétiser ou se transformer ou pas d'ailleurs en pratiques concrètes ou réelles. Alors, ceux qui font la démarche de venir sur une exploitation agricole, j'ai envie de dire, ce sont des convaincus, ce sont des avertis qui sont là en tout état de cause, en ayant réfléchi, fondé leur mobilité et qui ont eux-mêmes réfléchi au voyage quelque part et à la démarche. Mais il se trouve que voilà, ces représentations sont aussi extrêmement collectives, elles émanent d'une société tout entière et elles ne sont pas complètement encore en correspondance avec des pratiques, je dirais, à la hauteur hein, de cet imaginaire.
La nature, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est très centrale, que ce soit dans la pratique de l'agritourisme ou dans toutes les autres formes de tourisme durable.
Oui, alors ce retour...
Le rapport à la nature.
Oui, un rapport à la nature qui semblerait... une nature qui semblerait, encore une fois, dans les représentations, soignée. Mmh. Hein, cette dimension très thérapeutique de la nature qui revient sans cesse. Et puis, le rapport à la nature, c'est le rapport aussi, entre guillemets, à l'aliment dit naturel, à une certaine véracité aussi. C'est aussi ça, peut-être, la nature. C'est la transmission d'une vérité sans filtre. Et aller au plus près justement de cette vérité, c'est aussi se déplacer sur des lieux, dans des espaces sociaux, culturels, je dirais, qui n'ont pas été justement encore ou complètement infiltrés par d'autres apports qui pourraient être ceux de l'industrialisation, qui pourraient être ceux de l'occidentalisation, quand on parle d'ailleurs de l'international.
Je disais dans votre présentation que vous enseignez à l'Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, l'ISTIA. Mm-hmm. Est-ce que justement ces nouvelles pratiques et valeurs environnementales autour du tourisme durable, environnementales, économiques ou socioculturelles d'ailleurs, est-ce qu'elles sont transmises, enseignées aussi? Est-ce qu'elles sont intégrées dans l'enseignement aujourd'hui autour du tourisme?
Oui. Alors, oui, on est quelques-uns, hein, et puis je dirais que c'est aujourd'hui presque un pléonasme que de parler de tourisme durable. Hein, tout tourisme, a priori, devrait théoriquement l'être, et peut-être, effectivement, dans quelques années, on ne parlera plus de durabilité, parce qu'elle sera intégrée de fait dans l'approche touristique. Mais, effectivement, bien sûr, c'est enseigné, et je dirais que cette vision-là, cette posture-là, elle est infusée, elle irrigue pas mal, y compris d'enseignements, de conférences, d'ateliers aussi, terrains que nous organisons avec les étudiants, que ce soit d'ailleurs en sociologie, en économie, en géographie. Presque, je dirais, ou quasiment toutes les disciplines aujourd'hui prennent la mesure, semble-t-il, de cela. Et le tourisme étant un objet, on va dire, pluridisciplinaire, eh bien, cette question de durabilité transpire, hein, je crois, et doit être diffusée et transmise de cette façon-là, que ce soit au niveau licence ou master, de manière récurrente et transversale.
Donc du coup, ça m'amène à la dernière petite question. Ce tourisme durable, ce n'est pas juste une tendance. Il est voué à s'ancrer dans un système...
Oui, et j'ai envie de dire, on pourrait même parler au présent, hein, sans parler de futur, évidemment. Il s'ancre dans un système. Alors, bien sûr, dans la mesure du possible, mais je crois que, voilà, tant au niveau de la formation... puisque finalement nous formons les futurs professionnels de demain, tant au niveau de la formation que des acteurs aujourd'hui qui font et défendent, hein, je dirais, les modèles dits touristiques, eh bien, ce fameux dit durable, hein, qu'il soit écotouriste, éthique, responsable ou soutenable ou je ne sais quoi, ou partagé ou raisonné, eh bien, résonne, quel que soit. Alors, résonne beaucoup aujourd'hui dans les images et dans les représentations, il faut qu'il résonne encore plus au niveau des pratiques.
Jacinthe Bessières, on a une tradition sur On Air pour poursuivre la réflexion et la laisser résonner justement, c'est de vous demander un conseil, alors de lecture, de film, d'expo, de ce que vous voulez, sur ce vaste sujet.
Alors oui, vaste sujet, beaucoup de littérature, c'est certain, hein, sur ces questions, beaucoup, je dis encore une fois, dans différentes disciplines. Moi, je ne serai que vous conseiller de lire, alors je pense à un ouvrage qui vient juste de sortir, qui est coordonné par une collègue d'une association nationale qui s'appelle ASTRE, a dirigé un ouvrage qui s'appelle « L'agilité touristique en temps de crise et d'incertitude ». Donc là, on est bien dans le thème, où j'ai pu, avec mon collègue, écrire justement un article sur la conciliation entre agilité agritouristique et durabilité. Et puis, il y avait un autre ouvrage aussi qui était assez parlant sur ces questions, qui était sorti en 2019. Là, pour le coup, coordonné par des collègues de l'Université Jean Jaurès, qui s'appelle « Dans la fabrique des transitions écologiques, permanence et changement ». Et là aussi, on avait pu écrire un chapitre sur ces questions d'accueil à la ferme comme mode, on va dire, transitionnel de développement.
Un grand merci, Jacinthe Bessières.
Merci à vous.
D'avoir accepté notre invitation.
Merci.
On Air est une production de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production, le vidéographe de la Maison de l'Image et du Numérique de l'UT2J. La réalisation est signée Cédric Perronnet du pôle production, le vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le web média de l'université, et est accessible via le site www.univ-tlse2.fr de l'université, et vous pouvez enfin retrouver On Air sur les différents comptes de l'UT2J et sur les plateformes numériques. On Air.